Bonjour, bienvenue à tous au Conseil de classe, l'émission qui parle sérieusement de sujets qui ne le sont pas du tout, ou l'inverse. Alors aujourd'hui, sortez vos balais, le thème ce sont les sorcières, dans cette émission née d'un partenariat entre Croc Radio et l'UPOP. Pour faire le conseil de classe des sorcières et donner des appréciations dans différentes matières, nous allons avoir la maîtresse des arts occultes juridiques Emeline.
Bonjour.
Ainsi que le grand vaudou informaticien Mira.
Bonjour à tous.
Et notre druide préféré pour l'histoire géo, Pierre.
Bonjour.
On remercie aussi Nassim à la technique.
Et pour nous présenter le président de ce conseil, je veux bien sûr parler de Béranger.
Merci. Alors, les sorcières, grand mythe, légende féminine parmi les légendes. Et pour commencer ce conseil de classe où nous parlerons comme d'habitude d'un thème et que nous jugerons à travers différentes matières, nous allons commencer par l'informatique pour les sorcières. À vous Mira.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez aussi bien que moi, car aujourd'hui c'est mon chouchou qui se présente devant notre conseil inquisitorial. Alors non, je ne parlerai pas de l'univers de J.K. Terf Rowling, que je maudirai bien à chaque fois qu'elle emploie sa notoriété et l'argent que vous lui donnez pour soutenir des actes LGBTphobes ou transphobes, ce qui, je le rappelle tout de même, est un délit. Non, j'ai trouvé pour vous des composants bien plus intéressants dans mon grimoire d'informatique. Commençons promptement par un magicien blanc, on le nomme tout simplement Wizard, soit sorcier, dans la langue de Mr. Bean, et ce petit bienfaiteur, vous l'avez tous, j'en suis certain, déjà vu à l'œuvre. Si, si, souvenez-vous, la dernière fois que vous avez installé un logiciel, n'importe lequel, sur votre ordinateur Windows, vous voyez cette fenêtre grise avec plein de trucs écrits que vous ne lisez absolument pas, parfois des cases que vous cochez là aussi sans vraiment les avoir lues ni comprises, et ces fameux boutons suivants sur lesquels vous vous jetez frénétiquement en vous demandant « mais combien de fois je vais encore devoir cliquer ?» Eh bien c'est lui, le wizard, le sorcier qui installe vos logiciels pour vous, il se nourrit de vos clics et fait pour vous tout un tas de routines ennuyeuses et de paramétrages qu'avant lui, eh bien, c'était à l'utilisateur de faire pour pouvoir profiter de votre nouveau navigateur ou de votre suite bureautique préférée. Mais je sens que je vous déçois. Vous vous attendiez à plus de spectaculaire de ma part et je vous entends déjà. Mais Mira, t'es sûr de ne pas vouloir nous parler du jeu vidéo Harry Potter Hogwarts Legacy qui a pourtant eu un énorme succès en ce début d'année? Eh bien, très respectable et respectés auditeurs, malgré le risque de vous refroidir plus efficacement qu'un sort de Nova de Givre, ma réponse est sans appel, non. Je ne parlerai pas de ce jeu médiocre qui n'apporte aucune nouveauté au genre, qui s'est vendu uniquement grâce à la popularité de son univers et qui, pour preuve de ça, n'a remporté aucun des pourtant très nombreux prix aux Game Awards 2023 qui ont eu lieu le 17 décembre dernier. Je pourrais encore être plus violent qu'une boule de feu lancée dans une taverne bondée un soir de pleine lune transylvanienne en révélant qu'il a tout simplement été nommé dans aucune des 32 catégories de ces Game Awards 2023. Mais ce n'est pas pour autant que je ne remplirai pas la quête que vous m'avez confiée. Je vais vous présenter un vrai magicien. Sa grandeur est telle que personne ne songerait à s'en prendre à lui. Ni Netflix, ni DC Comics n'ont réussi à le mettre en cage. Je parle bien entendu de Henry Cavill, le seul homme au monde à avoir réussi à être à la fois une star de cinéma avec un corps d'athlète et un véritable geek. Le mec joue à Warhammer 40K. Il a construit lui-même son ordinateur. Il est fan de comics, de livres, d'heroic fantasy et pourtant il est beau, musclé et célèbre. Si ça c'est pas de la magie, mais qu'est-ce que ça peut être? Comprenez bien, on parle d'un type qui est fan de Superman depuis l'enfance et qui finit par incarner Superman au cinéma dans pas moins de 5 films. Et c'est un récidiviste, Le mec est fan aussi de livres, notamment The Witcher, et le voilà qu'il incarne le sorceleur, Geralt de Rive, dans leur adaptation en série par Netflix, dans 3 saisons quand même. Encore une petite anecdote pour finir de vous convaincre qu'Henry Cavill est également un joueur du MMORPG World of Warcraft, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines pour l'émission de Noël. Eh bien, notre envoûteur préféré a tout simplement raté l'appel du réalisateur du film Man of Steel, c'est-à-dire Zack Snyder, qui voulait lui annoncer qu'il avait été choisi pour le rôle de Superman. Voilà, rien que ça. Et oui, il était tranquillement en pleine partie de WoW, en raid plus exactement, avec ses camarades de jeu. Voilà. Pour résumer, je pense que du bien de nos sorciers et sorcières. Ils sont toujours là pour nous guider ou nous faire rêver, mais je vous invite à vous méfier de ceux qui se dissimulent dans leurs ombres et qui ambitionnent seulement de faire disparaître les pièces d'or de votre bourse.
Donc une belle appréciation pour les sorciers et sorcières en informatique, même si l'information la plus importante de cette chronique est sûrement que Mira a un poster d'Henri Carréville au-dessus de son lit.
2 mètres par 3.
À la hauteur de cet homme. En tout cas, nous allons continuer avec une petite pause musicalo-magique avec Nina Simone qui a jeté un sort sur vous. I put a spell on you.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
Retour dans le conseil de classe, l'émission qui parle sérieusement de sujets qui ne le sont pas du tout. Aujourd'hui, nous faisons le conseil de classe des sorciers et sorcières en les évaluant en différentes disciplines. Nous avons appris en culture informatique et geek, qu'ils avaient une très bonne appréciation et qu'Henri Cavill était un sexe symbole. Nous allons voir ce que donnent les sorciers et sorcières dans le domaine juridique avec Emeline.
Merci Béranger. Je vais tenter de jeter un sort à la justice et voir comment l'élève sorcière se défend devant le tribunal des profs. L'appréciation en droit de nos élèves sorciers permet de reconnaître non seulement leurs capacités magiques, mais aussi leur compréhension et leur respect des principes de la magie. Cela inclut la maîtrise des sorts et des potions, mais aussi l'éthique magique, la responsabilité et la gestion de ses pouvoirs. Les sorcières, ces expertes en potions et en balais volants, ont souvent été mal comprises par la justice. Au Moyen-Âge, les procès de sorcellerie étaient aussi courants que les sorts jetés par Hermione Granger à Poudlard, c'est vous dire. Mais sérieusement, ces procès étaient souvent plus tordus que la formule magique pour transformer un crapaud en prince charmant. Le prince était d'ailleurs le grand absent, puisque les juges rendaient une justice de droit divin, sans avoir à motiver quoi que ce soit, et seulement fondée sur des aveux, le plus souvent d'ailleurs extorqués par la torture de la baignade ou le bûcher. Et pourtant, ces procès sont à l'origine de la construction de l'État moderne et l'évolution du droit de la preuve. En effet, le législateur révolutionnaire, suite à ces procès en sorcellerie, a érigé en principe l'intime conviction du juge. Mais qu'en est-il du droit des sorcières aujourd'hui ? Eh bien, dans la plupart des pays, les lois contre la sorcellerie ont été abolies. En France, cela date de l'édit de 1682, adopté sous l'impulsion du Parlement de Paris, reconnaissant ainsi que les chasses aux sorcières du passé étaient aussi absurdes que les potions de Ron Weasley, qui tournent mal. De nombreux pays réhabilitent les sorcières. La dernière réhabilitée est Anna Goldie, la dernière sorcière d'Europe, 226 ans après sa condamnation par l'Église et sa décapitation en Suisse. Cependant, dans certaines régions du monde, des personnes sont encore accusées de sorcellerie, souvent pour des raisons aussi farfelues que les recettes de cuisine de Hagrid. Ainsi, un ressortissant libanais a été condamné à mort pour sorcellerie par un tribunal saoudien en 2009. Et en Espagne, une voyante de la télépirate a été condamnée à 32 ans et demi de prison pour escroquerie. Dans ces régions du monde, en particulier dans des zones où les croyances traditionnelles persistent, il y a des cas où des personnes sont accusées de sorcellerie en raison de tensions sociales, de conflits intercommunautaires ou simplement parce qu'elles sont des femmes et donc diaboliques de par leur sexe. Ces condamnations sont le plus souvent condamnées en termes de droits de l'homme. Et font aujourd'hui resurface en France avec le recours fréquent à des marabouts, notamment dans le football. Le recours aux marabouts spécialistes rituels à l'interface entre le champ de la magie et la religion, que l'on consulte pour mettre toutes les chances de son côté, n'est pas sanctionné en tant que tel, mais peut donner lieu à des sanctions subséquentes d'infractions pénales de droit commun, telles que l'escroquerie, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'exercice illégal de la médecine, la maltraitance animale ou l'administration de substances nuisibles. Rogue n'a que bien se tenir. Il est essentiel de noter que les condamnations pour sorcellerie peuvent être associées à des violations des droits de l'homme et à des pratiques discriminatoires. Les organisations internationales et défenseurs des droits de l'homme travaillent souvent pour sensibiliser à ces questions et pour aider à mettre fin à de telles pratiques. Les sorcières, comme toute autre personne, ont le droit de pratiquer leur religion, y compris celle liée à la magie, en toute liberté, et de ne pas être discriminées en raison de leurs croyances. La liberté de religion et d'expression offre un parapluie juridique aux praticiens des arts occultes. Après tout, qui a dit que les balais volants, les chaudrons, les baguettes magiques ne pouvaient pas être des objets de culte ? En conclusion, l'appréciation en droit de l'élève sorcière et des adeptes de la magie est donc un défi délicat pour les enseignants juristes magiques, d'autant plus quand ces derniers, les élèves, envoûtent leurs professeurs ou invoquent l'utilisation de l'encre invisible pour justifier de leurs devoirs non rendus. Entre justice et éducation, les tribunaux magiques cherchent donc à équilibrer les pouvoirs et à guider la nouvelle génération de sorciers vers un avenir responsable. C'est une danse subtile entre la baguette magique et le code éthique et une histoire aussi tordue que le chemin de traverse un samedi après-midi. Mais après tout, on ne sait jamais quand on aura besoin d'un bon sortilège ou d'un bon avocat pour se sortir d'une situation délicate.
Merci beaucoup, Emeline. Et je passe tout de suite la parole au Dumbledore de cette émission, avec presque quand même 60 ans de moins, pour les félicitations du conseil de classe. C'est à toi, Béranger.
Merci, Mira. Alors, oui, ça va être des félicitations pour la sorcière. Je veux féliciter la sorcière pour son rôle de précurseur dans la représentation des femmes dans les œuvres de pop culture et dans la fiction au sens plus large. Assez vite, la pop culture a introduit des femmes dans ses œuvres, mais plus que de vrais personnages, c'était surtout des supports, voire des accessoires pour les personnages masculins. Alors, les études universitaires ont même donné des noms à ces archétypes. On a la demoiselle en détresse, c'est-à-dire la femme qui est là juste pour être sauvée. On la retrouve dans Zelda, dans Mario, dans le mythe de Morphée. Ici, la femme est un objectif plus qu'une personne. On a même la moins commune, Woman in the Fridge, en français la femme dans le frigo. Ça, c'est la femme ou la fille qui a été horriblement assassinée et qui est donc le prétexte à la vengeance du héros. On la retrouve dans Gladiator, dans Max Payne, dans God of War, et voire même d'une certaine façon dans l'histoire d'Hercule. Et évidemment, la plus courante, le love interest. C'est le personnage féminin qui est là seulement pour se mettre en couple ou partager un moment chaud avec le héros. Une catégorie qui a même des sous-catégories, comme l'ingénue, l'amie d'enfance dont on découvre qu'elle a bien grandi, l'ex-femme à reconquérir, merci John McClane, ou la mythique femme fatale. L'animation japonaise a même créé ses propres sous-catégories, la tsundere, qui cache derrière son fort caractère un petit cœur tendre qu'on reconnaît à l'interjection paka, qui veut dire abruti en japonais, feignant son manque d'intérêt pour le personnage principal, ou la yondere, la femme qui est amoureuse mais qui est une sociopathe et qui tue toute rivale, rendue célèbre notamment par la série Mirai Nikki. Dans tous ces archétypes, nous sommes face à des personnages de fiction qui ne se définissent que par leur rapport vis-à-vis d'un personnage masculin. Ce sont des personnages objets plus que sujets. Mais il y a un archétype de personnage féminin identifié par le mythologue Joseph Campbell dans son livre Le chemin du héros ou le monomythe, qui se définit par son indépendance et sa capacité d'action autonome. Et à votre avis, comment nomme-t-il ce personnage féminin qui se démarque par son autonomie ?
Sorcière.
La sorcière, sinon ce ne serait pas le thème de cette chronique. La sorcière qui a très vite été un personnage à part entière. Alors traditionnellement dans le rôle du méchant, hein, par exemple dans de nombreux Disney ou le Magicien d'Oz. Alors oui, méchant, c'est pas le rôle le plus glorieux, mais méchant, hein, c'est déjà mieux qu'être un objet. Et soyons honnêtes, on a tous des œuvres en tête où on trouve le méchant bien plus intéressant que le héros. Mais depuis le début des années 2000, on a aussi vu apparaître des sorcières en personnage principal ou secondaire qui représentaient des femmes fortes et compétentes. Willow Rosenberg dans Buffy, le trio de sœurs dans Charmed, ou plus récemment les puissantes sorcières de Vampire Diary, ou la série Motherland Fort, Salem, qui nous présente une société où les sorcières gèrent les plus grandes armées du monde dans un système matriarcal. Bon, je pouvais pas faire cette liste sans citer les deux exemples mythiques, hein. Hermione Granger, désolé Mira, le personnage le plus compétent de la saga Harry Potter, qui se serait débarrassé de Voldemort en un seul film si elle avait été le héros de la saga, et la Reine des Neiges, qui a montré à toute une génération de petites filles qu'on pouvait être une femme forte et indépendante et qu'on pouvait rendre fous ses parents en chantant la même chanson en boucle toute la journée. Mais alors, d'où vient ce phénomène ? La recherche universitaire est étonnamment prolixe sur le sujet. On peut citer par exemple l'article de Marion Reger de l'université de Strasbourg sur le thème « La sorcière entre objet historique et icône féministe, regard scientifique sur l'utilisation des figures fascinantes » ou l'intervention de Maureen Ball au colloque « Sorcière d'hier et d'aujourd'hui entre diabolisation de la femme et retournement du stigmate ». Il y a donc une vraie force de la sorcière en tant que figure émancipatrice. Alors, pourquoi ? Déjà, intrinsèquement, la sorcière se caractérise par des critères qui étaient perçus comme problématiques avant et qui sont aujourd'hui recherchés, tels que l'indépendance, la capacité d'action, l'autonomie vis-à-vis des hommes, etc. Mais je pense que plus prosaïquement, dans une période qui donne la part belle à l'action, la sorcière est un moyen de montrer une jeune fille de 60 kilos toute mouillée, casser les bouches à la chaîne, ce qui serait moins crédible quand elle le fait sans pouvoir. Même si, soyons honnêtes, c'est pas si crédible que ça quand c'est Jason Statham qui le fait. La sorcière est donc passée d'outil de stigmatisation des femmes indépendantes à un symbole d'émancipation. On peut donc féliciter cet élève qui a réussi à être en tête de classe après quelques années difficiles.
Merci beaucoup Béranger, vous êtes toujours dans le conseil de classe sur Croc Radio et on va passer à une nouvelle pause musicale. On va écouter Queen, A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is challenging the door. We'll be right back.
Bon retour dans le conseil de classe, l'émission qui parle sérieusement de sujets qui ne le sont pas du tout, ou l'inverse, une émission en partenariat avec Croc Radio et l'UPOP. D'ailleurs, petit instant promo UPOP, n'oubliez pas de venir le 12 mars à la médiathèque du 30 pour la conférence « De quoi le féminisme est-il le nom ?» avec Solène Paris, une de nos chroniqueuses, et le 26 mars, toujours à la médiathèque du 30, sur une conférence « L'e-sport est-il un sport ?» que je co-animerai avec Mira. Je sens l'enthousiasme.
Mais venez
nombreux. Allez, donc pour les sorcières, on a parlé en geek de leur importance et de l'importance centrale de Mark Hamill dans le cœur de Mira. On a parlé des sorcières en droit et notamment du fait que on pouvait se baser sur l'absence de capacité intellectuelle du footballeur pour porter plainte contre son marabout. Et on va donc clôturer cette appréciation des sorcières avec l'histoire et notre ami Pierre Douillet.
Ah là là, quel drôle d'élève. Alors, ma première approche, c'est d'abord de déterminer c'est quoi une sorcière, parce que des fois, on m'en parle. Donc moi, je me suis attaqué d'abord à essayer de comprendre c'est quoi une sorcière et comment on la reconnaît. Donc forcément, je suis tombé sur les Monty Python. Donc je vais me forcer, avec l'aide de mes petits camarades, de reconstituer le parcours de la sorcière. Que faites-vous avec les sorcières ?
On les brûle !
Et que brûlez-vous à part les sorcières ?
Du bois.
Alors, pourquoi les sorcières brûlent-elles ?
Parce que les sorcières sont en bois ?
Mais. Et comment savoir si elles sont en bois ?
En faisant un pont.
Ah ouais ? Mais on fait pas aussi des ponts en pierre ?
Ah ouais !
Est-ce que le bois coule au fond de l'eau ?
Non, il flotte. Il flotte. Jetez-la dans l'étang.
Il y a autre chose qui flotte sur l'eau ?
Du pain. Des pommes.
Des petits cailloux. Du cidre. Des cerises. De la boue.
Des églises. Des églises.
Du plomb.
Un canard.
Exactement. Donc logiquement, si elle a le poids d'un canard, elle est en bois, et par conséquent, c'est une sorcière. Voilà comment on détermine la capacité à être une sorcière dans Monty Python. Sauf que Sacré Graal, c'est un problème, c'est que historiquement, c'est pas la période médiévale qui fabrique la sorcière. C'est la modernité du 16e qui fabrique la sorcière. On voit fleurir à un moment donné des manuels extraordinaires de démonologie. Comment repérer la sorcière dans le Maleus Magnificum ou dans la démonolâtrie de Nicolas Rémy. Je ne résiste pas, un juriste qui fabrique le concept juridique de la sorcière. Ça vaut son pesant de cacahuètes. A l'évidence, la vie de ces individus, non sexués ici, est souillée et infectée de tant d'impiété, d'empoisonnement, de désirs monstrueux, de forfaits infamants, que c'est justice, je n'hésite pas à le dire, que de les mettre à mort par le feu, après leur avoir fait subir toutes les tortures, afin, d'une part, qu'ils ou elles expient leurs crimes par les peines qu'elles méritent, et que d'autre part, les hommes, ayant là un exemple à méditer, soient effrayés par la violence du supplice et détournés de Satan. Nicolas Rémy, en 1595, nous donne un bon exemple finalement de ce qu'est la sorcière. C'est-à-dire un problème qui est un problème juridique lié non pas à l'Église, étonnamment, mais à la montée de l'État royal. Il y a une définition où on cherche, c'est en tout cas tous les propos de Robert Buchanan-Blaine, des boucs émissaires de la modernité. L'État cherche à contrôler les superstitions villageoises. Et quoi de plus superstitieux et villageois qu'une sorcière de village qui a l'avantage, il faut bien le reconnaître, de cumuler tous les maux. Elle touche aux démons dans toutes ses formes, et Dieu sait qu'il y a abondance. Elle rend stérile les hommes avec qui elle couche, puisqu'elle a couché avec le démon. Elle peut nouer l'aiguillette, fabuleux moyen d'obtenir l'infertilité ici du personnage à qui elle jette un sort. En clair, exécuter les fiancés de Satan, c'est donner un nom à l'angoisse et se permettre de l'exorciser. Donc en partant de ce principe, les sorcières vont être les victimes. Dans la représentation classique des condamnations à mort, on trouve en général une très légère surreprésentation masculine de l'ordre de 95%. Chez les sorcières, c'est plutôt l'inverse. 80% de sorcières pour 20% de sorciers qu'on exécute un peu par hasard, ils ont la malchance d'être là au mauvais endroit. Pour en terminer avec ça, il n'en reste pas moins que le sorcier, ou la sorcière plus exactement, est dépénalisé depuis la fin du XVIIe, comme quoi elle n'a plus grande utilité. Et puis maintenant, on va se référer à d'autres sorcières quand même beaucoup plus sympathiques. À vrai dire, j'adore Kirikou.
Merci Pierre pour cette magnifique chronique et cette description historique de la sorcière. Bon, si on doit conclure l'appréciation de bulletin de page de la sorcière, c'est un très bon élève, mais qui est
c'est une très bonne élève,
vous avez raison, ou un bon élève, il est aussi sorcière. En tout cas, c'est une très bonne élève, mais qui parfois est maltraitée par ses camarades de classe. En tout cas, on vous remercie pour votre attention, on remercie aussi la technique de Croc Radio, et on va vous quitter avec nos excuses pour la chanson qui va passer ensuite, nos excuses à tous les parents, puisque pour boucler les sorcières, on va partir sur Libéré, Délivré.
L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiment. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdue dans de la liberté. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis. Et